News FM, la radio qui cultive de bonnes ondes à Grenoble.
Radio Belle, le son qui ensorcelle.
Bienvenue sur News FM, dans l'émission Radio Belle. On se retrouve dans l'après-midi pour créer des étincelles.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur News FM dans la nouvelle émission Radio Belle. Je suis Myriam et juste à côté de moi, nous avons Hakim. Salut Hakim, comment ça va ?
Salut Myriam, moi je vais bien, merci et toi ?
Bah ça va très bien, merci. Je te laisse présenter les personnes autour de notre table.
Pas de soucis, alors voici, nous avons Virginie.
Salut.
Ryan.
Coucou.
Jenna.
Salut.
Et Cécile à la régie.
Coucou.
Et on va commencer par Virginie. Virginie qui va vous raconter notre histoire.
Ah là là. Vous devez certainement vous demander ce que Radio Belle veut dire et d'où ça vient. Eh bien, laissez-moi vous raconter notre petite histoire avant de vous expliquer. Pour commencer, nous étions 10 jeunes, sans avenir, tous en galère. Quand un beau jour, nos missions locales de nos secteurs nous ont ouvert les yeux et nous ont présenté une formation de radio avec News FM. Et comme gros galériens que nous étions, comme 50% des jeunes de notre âge, nous avons accepté. Haha. Vous devez certainement vous demander quel âge on a, n'est-ce pas ? Eh bien, attendez. On a tous moins de 26 ans. Pour que vous ayez un petit avis rapide sur nous, je vais vous présenter notre équipe. Car nous avons tous un caractère spécifique, hors du commun. Vous pouvez prendre une tasse de café ou ce que vous voulez, car ça risque d'être un petit peu long. Pour commencer, nous avons Andrea l'alcoolique.
Bonjour tout le monde.
Qui est une grande consommatrice d'alcool et qui ne sait pas faire la différence entre de l'eau et de l'alcool. Ensuite, nous avons Cécile, l'élève modèle.
Eh oui, c'est moi.
Ma chère voisine de table. Eh bien, je peux le confirmer, elle porte bien son nom. En plus d'être une bonne travailleuse, c'est aussi une artiste qui fait du théâtre. On continue avec Cyprien qui sert à rien.
Coucou.
Ce fameux Cyprien. Que dire, que dire. Toujours à l'ouvrir quand on n'a rien demandé, mais qui reste quand même gentil. Ma petite Jenna, la retardataire du groupe. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle est là.
Oui, je suis là, Virginie.
Il y a aussi Hakim, la pipelette du groupe.
Oui.
Toujours à chanter quand il y a du blanc et à rajouter des mots quand on n'en a pas besoin. Nous avons Myriam la râleuse.
Alors là, je comprends vraiment pas pourquoi on m'appelle comme ça. Pas du tout.
Bon, j'ai rien à dire. Son pseudo dit tout. On a Ryan le connard. Il a voulu se renommer tout seul. Je pense qu'il est maso.
Ça fait mal ce que tu dis. Recommence.
Ensuite, nous avons Suis-je chez ce Serge Gérard. Son pseudo est autant compliqué qu'un Rubik's Cube.
Bien sûr, vous êtes chez moi.
Et pour finir, nous avons Virginie la dernière, car je ne veux jamais passer première et j'emmerde tout le monde. Oh, bah c'est moi. Eh bien, maintenant vous savez qui est en train de faire cette présentation. Vous êtes certainement en train de vous demander pourquoi je n'ai dit que 9 prénoms. Eh bien, nous avons perdu un soldat. Si tu nous entends, Mamadou, fais-nous signe. Maintenant, il est enfin l'heure de vous dire pourquoi Radio Belle s'appelle Radio Belle, tout simplement car Belle veut dire cloche, comme les cloches que nous sommes.
Waouh, bah merci Virginie, je suppose. Bon, Ryan, t'as quelque chose de plus sérieux à nous apprendre ?
Oui Myriam, dis-moi, est-ce que tu sais ce que c'est l'effet placebo ?
Or non, pas du tout. C'est quoi ?
Bah tu sais quoi, je te propose d'écouter Anne-Laure Lebrun qui nous le résume.
Placebo, c'est tout simplement un produit qui ne contient aucun principe actif, mais qu'on présente comme efficace. Donc normalement, ce faux médicament ne devrait avoir aucun effet sur votre corps, et pour autant, on voit des effets thérapeutiques. C'est le fameux effet placebo. Alors l'exemple le plus parlant, je trouve que c'est le bisou magique. Un enfant qui tombe, on va lui frotter le genou, on va lui faire un petit bisou sur son genou. Il arrête instantanément de pleurer, il a plus mal, il repart jouer avec ses copains. Mais l'effet placebo, c'est aussi le remède miracle qui a soulagé des soldats blessés lors de la Seconde Guerre mondiale, ou un anesthésiste américain en manque de morphine pendant la Seconde Guerre mondiale a dû trouver une technique et a injecté de l'eau salée sans rien dire à ses soldats et les soldats se sont sentis beaucoup mieux, les douleurs ont été soulagées.
Donc, comme l'a dit cette journaliste, l'effet placebo, c'est pour résumer un traitement neutre ou inactif, comme du sucre, qui soigne les maux. Au lieu d'être soigné par le contenu du médicament, nous le sommes grâce à notre corps qui, comme nous, croit à l'effet produit et provoque une amélioration dans notre physiologie. Pour donner un exemple concret, il y a une étude de 2021 menée sur 27 patients qui a prouvé que l'effet placebo peut agir sur le centre cérébral du traitement de la douleur. Lors de cette étude, après avoir appliqué une douleur modérée sur le bras des patients, les médecins ont appliqué soit une crème antidouleur, soit une crème neutre sur la zone tout en annonçant le type de crème aux patients. En réalité, toutes ces crèmes n'étaient que de la vaseline. Et tous les patients qui ont cru recevoir une crème analgésique ont dit ressentir moins de douleur. Grâce à des IRM, les chercheurs ont pu constater qu'apparaissait une hausse d'activité dans la partie du cerveau responsable de la transmission de la douleur, preuve que le cerveau produisait un effet sans n'avoir rien reçu. Il convient aussi de noter qu'il est plus efficace dans le traitement des douleurs et d'états dépressifs et anxieux, agissant sur plus de 30% des cas. Bien que les études sur l'effet placebo durent depuis plus de 80 ans, certains paramètres et facteurs restent encore parfois flous. Nous savons par exemple que tous les patients sont sensibles à l'effet placebo, la seule variante restant son intensité. Et de par les multiples facteurs qui l'affectent, il reste difficile de quantifier l'effet placebo et de savoir comment l'optimiser au cas par cas. Parmi les principaux facteurs qui permettent à l'effet placebo de fonctionner, il y a la confiance que l'on place en son médecin, ainsi qu'en ses explications et ses médicaments. L'effet placebo peut être créé de multiples façons et à des degrés différents, comme nous l'explique le neurologue Didier Bouassira.
Ça peut être classiquement un morceau de sucre, un peu de talc, ça peut être la chirurgie, ça peut être des traitements psychologiques ou psychothérapeutiques. Plus le traitement est censé être invasif ou efficace, plus l'effet placebo est important. Par exemple, l'effet placebo induit par la chirurgie est toujours beaucoup plus important que l'effet placebo induit par un médicament. Et l'effet placebo d'un médicament administré par la bouche est très souvent moins fort que l'effet placebo d'un médicament qu'on administrerait par voie veineuse. Par exemple, sur des interventions sur le cœur, qui consiste à aller faire une petite ligature autour d'une artère qui irrigue le cœur, et puis dans un autre groupe de patients, on fait que simplement ouvrir le thorax sans rien toucher. On a constaté que les effets étaient exactement les mêmes, et les effets étaient bénéfiques chez deux groupes de patients, et que ces effets de la chirurgie réelle ou de la chirurgie placebo duraient dans les deux cas plusieurs années.
Or donc, Myriam, est-ce que tu as compris ce qu'est l'effet placebo ?
Oui. De ce que j'ai compris, c'est un effet provoqué par la prise d'un traitement qui est en réalité neutre ou inactif, qui provoque une réaction dans le cerveau qui permet de soulager, voire parfois soigner, un trouble ou des maux. C'est ça ?
Eh bien, la prochaine fois, c'est toi qui fais la rubrique. Hein. T'es bien meilleur pour résumer que moi, apparemment.
Merci Ryan, mais je te laisserai ce privilège.
Coucou Jenna, aujourd'hui tu vas nous présenter, tu vas nous parler du Petit Prince, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. Vous l'avez sûrement lu ou déjà entendu quelque part. Le Petit Prince, paru le 6 avril 1943, est le livre français le plus lu et le plus traduit du monde, avec 80 millions d'exemplaires et 150 traductions. C'est un chef-d'œuvre poétique et philosophique que l'on peut lire et relire à tout âge. Antoine de Saint-Exupéry a 42 ans lorsqu'il écrit Le Petit Prince, avec déjà plusieurs années d'aventure derrière lui. Pionnier de l'aéropostale, il a échappé au désert d'Afrique, au glacier des Andes, et il a obtenu un grand succès avec ses deux premiers romans, Courrier Sud et Vol de nuit. Mais son œuvre majeure reste Le Petit Prince, qu'il dédia à son meilleur ami Léon Werth, où en quelques lignes seulement on apprend le véritable sens des mots amitié ou encore courage, par exemple. On comprend le sens du mot apprivoiser et surtout devoir.
Suis-moi, on y est presque, suis-moi. Là où rien ne presse, suis-moi, et voilà que nous y voilà.
L'histoire commence avec un aviateur qui s'écrase dans le désert du Sahara, où il rencontre un petit garçon aux cheveux d'or qui lui demande de dessiner un mouton.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
On suit ainsi l'histoire de ce petit prince qui raconte ses aventures à l'aviateur. On apprend qu'il vient d'un astéroïde nommé B612, où il vivait seul avec une rose bien capricieuse et qu'un beau jour, il quitta cette rose dont il est amoureux pour partir à l'aventure. Il fit le tour des planètes et rencontra plusieurs personnages étranges comme le roi autoritaire.
Sire, sur quoi régnez-vous ?
Je règne sur tout.
Et les étoiles vous obéissent ?
Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline.
L'homme d'affaires avide, le vaniteux.
Est-ce que... est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Ne suis-je pas l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète?
Et la lumière de réverbère consciencieux. Il arriva par la suite sur Terre et rencontra un renard qui lui apprend que l'essentiel est invisible pour les yeux et que l'on ne voit bien qu'avec le cœur. Le petit prince réalisa alors que sa rose est unique pour lui parce qu'il l'a apprivoisée et qu'il en est responsable. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Pour la retrouver, le petit prince sacrifia son corps de chair en se faisant mordre par le serpent venimeux, en nous laissant comme dernier mot « J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai ». L'histoire se termine avec le petit prince qui retourne sur sa planète en laissant derrière lui l'aviateur et une étoile brillante dans le ciel.
Sur le chemin, j'ai rencontré un renard qui voulait être apprivoisé. Il m'a confié un doux secret et j'ai enfin compris que tu m'aimais. J'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu lui as fait naître un matin.
J'espère bien que cette chronique vous aura plu et n'oubliez pas d'apprécier chaque instant qui passe. Ayez le courage de partir à la découverte de nouvelles choses et ne perdez jamais votre part d'enfant. Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines. C'est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. Je vous souhaite à tous une agréable fin d'après-midi et au plaisir de vous retrouver sur une autre étoile.
Alors, merci à toi, JJ. Je ne connaissais pas l'histoire du Petit Prince et c'était très intéressant.
Cécile va maintenant nous présenter les...
prochaines sorties streaming. Et oui, Myriam, les sorties films et séries de cette semaine promettent d'être hautes en couleurs et en différents styles. Tout d'abord, sur Netflix, nous pourrons découvrir vendredi la mini-série Senna sur le pilote brésilien Ayrton Senna. Elle retrace sa vie et comment il a marqué l'histoire de la Formule 1. Pour les fans de course, je vous laisse avec un petit extrait de la bande-annonce.
Avant même de mettre un pied dans une voiture, je savais que j'étais né pour la course. Je sais que je peux être champion.
Ensuite, pour celles et ceux qui n'avaient pas pu aller voir La Méthode Williams au cinéma, réalisé par Reynaldo Marcus, je vous donne rendez-vous dimanche sur Netflix. Le film suit les deux filles de Richard Williams, interprétées par Will Smith, qui les pousse jusqu'au sommet de la hiérarchie du tennis. Vous pourrez aussi retrouver le film Les Chatouilles, réalisé par Andrea Bescon et Eric Metayer, avec de nombreux acteurs et nombreuses actrices célèbres comme Karine Viard, Clovis Cornillac ou encore Grégory Montel. Tiré du livre écrit par la réalisatrice elle-même, il retrace l'histoire d'une danseuse trentenaire qui avoue et libère un traumatisme dont elle a été victime enfant par un proche de sa famille. Il est donc question de sujets graves comme les abus sexuels sur enfants, mais l'approche de ces sujets est amenée avec une légèreté singulière et un décalage qui se révèle le meilleur facteur de résilience. Le film sera disponible sur Netflix dimanche. Vendredi sur Canal+, vous pourrez aussi voir ou revoir le dernier film de George Miller, Furiosa, une saga Mad Max. Et sur Paramount+, découvrez vendredi aussi la version américaine du programme français Le Bureau des Légendes, intitulé en anglais The Agency. Cette série d'espionnage produite par George Clooney met en avant la CIA et non pas la DGSE comme c'est aux États-Unis et non en France. Puis sur Disney+, toujours vendredi, vous pourrez voir le film Nutcrackers, désolé pour mon accent, avec Ben Stiller qui joue Mike, un obsédé du travail, obligé de quitter son boulot pour aller s'occuper de ses 4 neveux orphelins. Et enfin sur Arte, pour les cinéphiles les plus pointus, mercredi je vous conseille vivement le film norvégien Ninja Baby qui parle de la maternité et de l'avortement avec une pointe de féminisme. On suit Raquel, dessinatrice de 23 ans qui se retrouve confrontée à un avenir qu'elle n'avait pas du tout prévu, devenir mère. Et voilà pour les sorties streaming de cette semaine. À vos écrans!
Merci Cécile, il faut vraiment que je pense à réactiver mon abonnement Netflix. Bon, maintenant on vous laisse vous ambiancer sur la pause musicale. À tout de suite!
Attention, j'arrive. T'es mal de charisme. Mets pas dans ta story. J'suis blacklisté sur Belize. Sur le côté VIP. Que des 10 sur 10. J'suis dans la zone à risque. J't'ai vu sur le périph'. Tu faisais la timide. Tu m'as vu sortir de bolide à 6 chiffres. J'ai vu ton sourire. D'une façon plus poétique, t'es mon oasis dans cette capitale aride. Capitale aride, alors on s'éclipse dans la zone à risque. J't'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Tu m'as vu sortir d'un bolide à 6 chiffres. J'ai vu ton sourire. Je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi.
À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, pour l'éternité. À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, pour l'éternité. À tes côtés, à mes côtés, à mes côtés, pour l'éternité.
Et puis sur le péril.
J'espère que cette pause musicale vous aura fait du bien. Entre-temps, de nouvelles personnes nous ont rejoints. Alors, on a Andrea.
Bonjour tout le monde.
Puis, on a Cyprien et Serge.
Coucou.
Salut.
Hakim, qui est aujourd'hui d'humeur sentimentale, se pose des questions.
Ah là là là, l'amour, l'amour, l'amour. C'est quoi exactement ? C'est un sujet divers et varié. Chacun a sa propre définition, mais on se rejoint toutes et tous. Pour savoir qu'est-ce que c'est l'amour ? J'ai posé plusieurs questions à différentes personnes et je vous laisse écouter leurs réponses. Bonjour, pour vous, que signifie l'amour ?
L'amour, je pense que c'est un état partagé, intense, de bonheur à l'intérieur de soi.
C'est d'avoir un sentiment qu'on n'arrive pas forcément à décrire envers une personne. Et pour moi, l'amour, en fait, c'est quelque chose qui vient naturellement, qui sort du cœur.
Pour moi, l'amour, ça signifie beaucoup de choses. Et, généralement, ça signifie le bonheur et l'avenir.
C'est difficile comme question. C'est-à-dire que l'amour peut se partager. Voilà, je dirais la première chose.
L'amour a plusieurs définitions pour moi. Donc, ça peut être l'amour qu'on a pour sa famille, l'amour pour ses proches, pour ses amis, et aussi l'amour romantique, bien sûr. Le sentiment amoureux, ça en fait partie également.
Selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un ?
Je pense qu'il y a pas mal dans le regard, puis aussi l'échange, j'imagine, intellectuel, des valeurs communes partagées.
Les valeurs communes qu'on peut partager ensemble, c'est quelque chose, en fait, c'est naturel déjà. Physique, mais aussi, je dirais, en termes de personnalité, qui fait que, en fait, on a une connexion, on finit par avoir des sentiments pour la personne, voilà.
Physiquement, on va dire le sourire et la joie de vivre, et mentalement, une personne apaisée et qui a beaucoup de projets dans la vie.
Des attentions, du rire, la voix, la personne, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui pourrait me faire tomber amoureuse de quelqu'un ? Je pense que c'est les échanges, le fait d'avoir des points en commun et d'avoir des qualités communes.
Qu'est-ce qui définit l'amour idéal ?
Alors, l'amour idéal, c'est du partage. C'est inconditionnel et c'est faire avec les différences de l'autre et c'est surtout se compléter.
Je pense pas que ça existe, c'est propre à chacun, c'est subjectif et c'est selon la perception des choses de chacune des personnes. Il y a des personnes qui l'ont trouvé et d'autres non, et d'autres pour qui ça n'existe pas. Moi je suis plus dans le pour que ça existe.
L'amour idéal existe déjà, je pense que c'est l'amour familial, c'est l'amour idéal et c'est l'amour inconditionnel, c'est celui qui ne change jamais.
Comme vous avez pu l'entendre, chacun a sa propre définition de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est quand on a le cœur qui palpite, qu'on a la boule au ventre, qu'on n'arrive pas à s'exprimer correctement devant la personne que l'on aime. L'amour, c'est une sensation qu'on ne peut pas contrôler et qui peut faire énormément de mal. Au final, l'amour, c'est quand même magique. Sur ces belles paroles, passez une belle journée et n'oubliez pas que l'amour est magique. Ciao.
Merci Hakim. Cyprien, toi tu vas nous parler de la fin de Google, c'est ça ?
En effet, une nouvelle importante secoue le monde de la technologie. Selon Bloomberg, célèbre agence de presse spécialisée dans l'économie et la finance, le ministère de la Justice des États-Unis envisage de demander à un juge de forcer Google à céder son navigateur web, Chrome.
Mais qu'est-ce qui se passe exactement ?
Récemment, un tribunal fédéral américain a jugé Google coupable d'avoir illégalement monopolisé le marché de la recherche en ligne. Avec environ 61% des parts des marchés aux États-Unis, Chrome joue un rôle central dans cette accusation. En contrôlant ce navigateur, Google assure un accès direct à son moteur de recherche, limitant ainsi les options pour les utilisateurs qui souhaiteraient explorer d'autres moteurs. Cette démarche audacieuse fait suite à une décision antitruste qui condamne Google pour avoir étouffé la concurrence et restreint les choix des consommateurs. Initialement, le ministère de la Justice envisagerait de scinder Google en trois entités distinctes, Search, Chrome et Android. Mais il semble maintenant que l'accent soit mis sur la vente de Chrome pour briser le monopole de manière plus ciblée.
Et qu'est-ce qui demande la justice ?
L'équipe fédérale propose également que Google soit contraint de s'abstenir de conclure des contrats d'exclusivité avec les équipements pour les appareils Android et Chrome. De plus, le gouvernement américain souhaite que Google fournisse aux sites web davantage d'outils pour refuser l'extraction de leurs données à des fins d'entraînement et de l'intelligence artificielle. Ces mesures visent à limiter l'influence de Google dans plusieurs aspects clés de la technologie moderne. Quoi qu'il arrive, lors du procès prévu en août prochain, cette affaire marquera un tournant dans les régulations des géants technologiques. Elle pourrait redéfinir les règles du jeu, offrir plus de choix aux consommateurs et stimuler une concurrence plus saine dans l'industrie technologique. Merci et à bientôt.
Merci Cyprien.
Merci à toi Cyprien. Alors là, on se retrouve avec Andrea. C'est ton tour de... Je te laisse débuter ta rubrique.
Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'association Digi38. Alors ça veut dire domicile intergénération isérois. Digi est une association qui développe des solidarités intergénérationnelles, interculturelles, des liens de proximité entre les locataires, les jeunes et les seniors au domicile. Je vous laisse découvrir les détails dans cette interview avec Manon Belay, directrice de Digi.
Pouvez-vous vous présenter et présenter l'association, s'il vous plaît ?
Manon Belay, je suis directrice de l'association Digi, association qui a été créée il y a bientôt 20 ans, donc en 2005, pour promouvoir et développer la cohabitation intergénérationnelle en Isère.
D'accord. Et en quoi consistent vos missions ?
La cohabitation intergénérationnelle, c'est une personne de plus de 60 ans qui a une chambre disponible dans son logement et qui la met à disposition d'un jeune de moins de 30 ans à la recherche d'un logement. Et notre mission au sein de l'association, c'est de mettre en relation les personnes qui cherchent un logement et les personnes qui souhaitent accueillir un jeune.
D'accord. Quels sont vos projets ou événements ?
Alors, le projet principal, bah, c'est de pérenniser le développement de l'association et puis d'avoir de plus en plus de binômes, c'est-à-dire un jeune et un senior qui vivent ensemble au domicile du senior.
Et l'objectif, c'est de se développer en nombre, mais aussi au sein du territoire de l'Isère, puisque on intervient sur tout le territoire, mais il y a des territoires qui sont moins développés. Donc l'objectif, c'est de développer également les zones rurales, ou les territoires de montagne, par exemple. Et donc, bah, pour ce faire, on va avoir différentes missions, notamment, par exemple, en 2025, on a la création d'un spectacle sur la cohabitation intergénérationnelle.
Avez-vous des partenaires pour vos événements ?
Alors nous, on a quand même peu d'événements, puisque l'objectif vraiment, c'est de développer la cohabitation intergénérationnelle, et ça, c'est, on va dire, c'est au long cours et c'est notre quotidien. Et après, dans le développement de la cohabitation intergénérationnelle, on a de nombreux partenaires qui sont, bah, le premier, c'est le département de l'Isère, puisqu'on a été créé à l'initiative du département de l'Isère, et c'est notre premier financeur aujourd'hui. On a les communes, on a les collectivités, de manière générale, les collectivités territoriales avec les communautés de communes. On a la CAF, la CARSAT. Ponctuellement, sur certains projets, on va avoir les caisses de retraite ou les mutuelles, la GDZ, Malakoff Humanis, ou par exemple la Fondation Caisse d'Épargne qui nous soutient sur deux projets entre l'année dernière et cette année.
Avez-vous des besoins ou des attentes ?
Alors nous, nos besoins, c'est surtout un besoin de notoriété, de faire connaître la cohabitation intergénérationnelle, puisque la plupart des personnes connaissent en disant « Ah, c'est sympa, on a vu ça au JT ou on l'a entendu à la radio ». Nous, on ne savait pas que ça existait à Grenoble ou en Isère, donc c'est vraiment de dire que oui, on intervient sur l'ensemble de l'agglomération grenobloise, mais pas que, sur le territoire de l'Isère, que c'est pas destiné que aux jeunes étudiants, c'est aussi les internants, les jeunes actifs, les stagiaires, les jeunes en recherche d'emploi, et c'est pas que pour les personnes très âgées en perte d'autonomie, et pour des personnes qui seraient aussi encore actives, par exemple, mais qui ont envie d'aider un jeune à se loger, même en travaillant encore, par exemple.
Avez-vous un dernier mot à dire ou un message à faire passer ?
Que la cohabitation intergénérationnelle, c'est plus qu'une expérience de vie, enfin, plus qu'un toit partagé, c'est une réelle expérience de vie. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, aux jeunes, puis aux seniors qui pourraient accueillir, et aux proches aidants, puisque les proches aidants peuvent être soulagés dans leur quotidien par la présence d'un jeune et rassurés en disant que bah, le jeune peut alerter s'il y a un souci avec la personne âgée, peut donner des nouvelles, etc.
Ben, merci beaucoup.
Comme vous l'avez sûrement compris, Digi fait plusieurs actions comme accueillir, accompagner, sensibiliser, innover, et conforter. Vous pouvez également proposer une chambre pour un jeune ou rechercher une chambre. Vous pouvez aussi faire des dons. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux à l'adresse de boulevard Maréchal Joffre à Grenoble, sur le site internet digi38.org ou par téléphone au 04 76 03 24 18. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve plus tard pour d'autres sujets. Salut.
Merci Andrea. Et pour finir, Serge, je crois que tu m'avais parlé d'un petit souci, c'est ça ?
Exactement, Myriam. J'en ai discuté ce matin au téléphone avec ma grand-mère qui me dit « Fiston, est-ce que tu t'en sors dans ton nouveau pays ?» Je lui ai répondu « Grand-mère, en France, les gens ne parlent que le français et moi, genre, je ne m'en sors vraiment pas. » Elle me dit « Fiston, avant ton départ pour la France, tu as déjà visité plusieurs pays dans le monde. Comment ça se fait que tu t'en sors pas ? Rien qu'au Cameroun, nous avons plus de 48 dialectes et tu les parles tous. » Et j'ai dit, mais oui, mamie, tu as raison. Je n'ai qu'à leur apprendre à parler le Douala, le Bafan, le Bafsam ou même le Bambara. Merci, mamie. Alors, à peine le téléphone raccroché, je me suis précipité hors de chez moi et j'ai lancé la première personne que j'ai croisée. Je lui ai dit « Yamela, ozoke, tu aimes que, tozou, pem, kwepe, wame, menramela. » Ce quoi elle m'a répondu.
« Nishta nessa, ramnyono, zovinjenya. »
Puis elle est partie sans se retourner. Vous voyez les amis, la diversité culturelle est une chose formidable. Mais faut dire que parfois on n'y comprend vraiment rien. Merci Myriam.
Mais quelle perle de sagesse, Serge. En tout cas, moi, je trouve que tu t'en sors vraiment bien avec le français.
Merci, merci.
Eh ben voilà, je crois que tout le monde est passé pour cette première émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à vendredi. Bye bye.
Radio Belle, le son qui ensorcelle.
News FM, la radio qui cultive de bonnes ondes à Grenoble.